01 43 71 89 40 et ben avec bien sûr Monique à la technique qui sera là le lundi 4 parce qu'on va recevoir Mayan Majidi pour son livre Pour que jamais mon corps publié au Nouvel Attila. C'est une dame qu'on a déjà reçue il y a quelques années pour Marx et la poupée. Ben aujourd'hui on va voyager. Ah oui, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais, je vais faire un peu de publicité pour Trou Noir, l'émission qui va arriver là. À 16h, c'est ça? Tu seras là, Serge? Ça sera là? Car le sujet est quand même quelque chose, de, j'ai envie de dire, de solide et costaud. Bah, c'est ce qui s'est passé en 61, le fameux massacre du 17 octobre. Hein, les Algériens, je ne sais pas combien il y en a eu exactement, plus de 2000, on ne sait pas exactement. Et comme c'était une histoire qui, a été, qui est restée très très longtemps tue, bah, je crois que ce n'est pas inutile de revenir, surtout avec tous les oublis qu'il y a, avec l'histoire actuellement. En parlant des oublis de l'histoire, bah, c'est un peu pour ça que je suis rentré en contact avec toi. Tout simplement parce que j'étais à Publico, j'ai eu une discussion avec Laurent, et qui avait été offusqué de voir des gens défiler avec l'étoile jaune dans les rues pour une question de passe, comme ça. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, j'avais été à Nuit Debout il y a quelques temps, je suis tombé sur un jeune homme qui se réclamait de l'anarchie, qui m'a remis un tract pro-palestinien. Ce tract partait très bien, les 10 premières lignes étaient très bien. Ça tournait très rapidement en antisionisme, ça arrivait en antisémitisme, et c'était du Alain Soral à la fin. Donc une énorme confusion. D'autant plus que entre-temps, il y a quelques années, moi j'ai préfacé un livre qui s'appelle « Voyage au bout de l'abject » sur Louis-Ferdinand Céline. Je croyais que quand même dans nos milieux, ben, c'était quand même difficile de défendre Céline, et je me suis retrouvé sur la toile avec des mots d'oiseaux, des insultes, et voilà. Je suis tombé un peu, comme on dit, de l'escalier. Et puis là, juste avant de qu'on prenne contact, il y a eu un article qui m'a intéressé dans l'Humanité d'ailleurs, et qui dit ceci. Le mythe du complot juif, notamment, revient régulièrement lors de pandémies, parce qu'il offre une explication rationnelle à l'angoisse, observe l'historienne Nona Meyer. Dans les périodes de crise, on cherche un bouc émissaire. Dans l'histoire, on constate qu'il s'incarne régulièrement à travers la figure du juif. Voilà, c'est toute cette confusion qui fait que je t'ai téléphoné. J'ai lu ton livre et j'ai dit on va prendre rendez-vous pour parler de tout ça. Alors, c'est publié Pierre Sommermeyer, anarchiste et juif, anarchiste antisémite, et antisionisme aux éditions libertaires. Hein? Ce que je t'ai dit la dernière fois, c'est tellement vaste comme sujet, ça recouvre le politique, ça recouvre l'historique, le philosophique, le religieux aussi, il faut bien le dire, même si on est sur Radio Libertaire, il aurait fallu au moins 300 pages pour traiter de tout ça. La couverture est très explicative, entre guillemets, il y a un point d'interrogation, qu'est-ce qu'on voit? On voit un cube, une étoile juive, le A de l'anarchie et un point d'interrogation. Alors moi, je me suis demandé si ce point de l'interrogation... Je trouvais que c'était très clair comme façon de conceptualiser ce que tu as voulu dire. Ça veut dire quoi, ce point d'interrogation? C'est on s'interroge sur les passerelles qui existent entre la culture juive et la culture anarchiste, ou ce point d'interrogation concerne tous les hiatus, tous les malentendus et toutes les choses innommables qu'il y a eu de la part de certains organismes et certaines plumes juives, anarchistes par rapport à la culture juive. Alors, c'est quoi ce point d'interrogation, selon toi ?
Mais je crois que c'est tout cela en même temps, et en même temps, c'est que la question reste ouverte. Au fond, tous les gens qui se sont penchés, qui ont écrit sur la question juive, entre guillemets, ont élaboré des idées, des théories, mais sans résoudre cette question. Et les anarchistes, quand ils se sont confrontés à la question juive, ont biaisé sans arrêt, parce que c'est à la fois une religion, il n'y a pas de problème, c'est à la fois une ethnie, et ça c'est très discutable, et c'est beaucoup été discuté, c'est un mélange, c'est une culture, c'est un héritage, c'est quelque chose qui est honni par tout le monde, au fond. Et quand j'ai fait ce travail, je suis parti quasiment de la fin. Je me suis posé la question de savoir pourquoi la question de la Shoah n'était pas traitée par les anarchistes.
Et petite parenthèse, tu dis un mot terrible dans ton livre en bas de page. On est en 2017, tu me corriges si je me trompe. Tu es dans une réunion avec des camarades anarchistes et quelqu'un te dit « Le mot Shoah ne m'intéresse pas parce que c'est un terme religieux. » Ce qui est une confusion totale.
Mais absolument, c'est exactement ça. J'avoue avoir été assez choqué et interloqué, ne pas avoir su quoi répondre à cette question. Donc j'ai commencé ce travail en me disant, bon, on va aller aux sources, au départ des anarchistes. Et j'ai commencé à feuilleter la presse anarchiste en me servant effectivement de tous les originaux qui sont présents sur le site anarchisme, pas anarchisme, Archive Autonomie, où les textes fondateurs de l'anarchisme existent et sont publiés.
Parce que le problème n'est pas nouveau, parce qu'en préparant cette émission et en te programmant, j'ai reçu du Québec quelqu'un qui me dit le sujet est très intéressant, vu que le problème s'est posé au Canada au début du siècle. Plus, j'ai reçu quelqu'un qui m'a dit je travaille en yiddish sur une traduction de texte fin 19e concernant ce problème.
Mais oui, c'est la première rencontre entre les anarchistes et les juifs, c'est l'affaire Dreyfus.
Voilà.
Et là se pose la question de savoir, est-ce qu'on défend un militaire? Est-ce qu'on défend un juif? Est-ce qu'on défend un juif accusé par des militaires parce qu'il est juif? Est-ce qu'on défend autre chose? Et c'était, il y a eu des discussions extrêmement vives au sein des mouvements anar. Et si quelqu'un comme Sébastien Faure emportait le morceau en disant non, on défend la liberté et la vérité, c'était lié à sa présence à lui, Sébastien Faure.
Tu sais que le problème, c'est plus tard se reposera pareil avec Jean Genet qu'on a mis dans les bagnes pour enfants dans son enfance, et il dit à un moment donné, je vais quand même pas aller défendre l'État français contre l'envahisseur allemand. Il va même jusqu'à provoquer en disant que l'Allemagne gagne. C'est le même problème qu'en fin de compte qu'on a posé par rapport au militaire qui était Dreyfus, qui aurait pu très bien tirer sur le peuple. Mais c'est intéressant parce que sur la même page de ton livre, là, tu rappelles, moi, je n'avais pas pris conscience de ça, tu donnes les dates de l'affaire Dreyfus, hein, c'est, je ne sais pas si tu t'en souviens de mémoire, ça finit en 1906 environ, hein, c'est 94-1906, et tu dis cette phrase, simultanément, une autre question se posait aux anarchistes, celle du sionisme. Né à Bâle au mois d'août 1897, en pleine affaire Dreyfus, il s'agit d'abord d'un plan de réunification nationale juive. C'est-à-dire que le projet d'Israël date quasiment de cette époque-là.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait. Et il est conjoint avec la montée du nationalisme un peu partout. C'est donc une nation en plus à créer. Il est l'œuvre de juifs qui ne sont pas du tout religieux. Les juifs religieux vont dire « Non, c'est pas à vous de faire ça, c'est à Dieu de le faire. » et se poseront à ça. Et de l'autre côté, les juifs qui ont rompu avec les communautés et qui se sont organisés au sein de syndicats, de partis, choses comme ça, et entre autres chez les anarchistes, diront « Allez en Palestine ». Pour créer quelque chose, c'est contre-révolutionnaire. La révolution se fait ici et pas là-bas. Mais les mêmes gens iront voir les penseurs anarchistes du moment et poseront la question de savoir est-ce qu'on peut aller là-bas.
On peut aller là-bas, mais ce qu'il y a derrière dans la mémoire anarchiste, anti-judaïque, on va dire anti-judaïque pour commencer, est déjà assez grave. Parce que je vais te lire deux petits passages que tu as repris dans ton livre, hein, qui sont symptomatiques. C'est Émile Pouget qui a repris un peu le ton du père Duchesne de la Révolution. Hein. Il dit « Quand un bon bougre fout à la gueule d'un type, comme s'il foutait une baffe, ce mot, tu es un youtre. Il se moque de la religion comme de l'an 40. Le youtre, en un mot, c'est l'exploiteur par excellence. Il est parfait dans sa crapulerie pour faire suer le populo, pour suer son sang, à lui le pompon. » Alors, on peut penser que là, il y a un côté un peu démago, etc. Moi, je trouve, d'ailleurs. Mais lorsqu'on prend un penseur anarchiste comme Proudhon, qui veut s'exprimer beaucoup plus philosophiquement, on a quand même ceci, juif, faire un article contre cette race qui envenime tout, en se fourrant partout, sans jamais se fondre avec aucun peuple, demander son expulsion de France, à l'exception des individus mariés avec des Françaises, abolir les synagogues, ne les admettre à aucun emploi, poursuivre enfin l'abolition de ce culte. Ce n'est pas pour rien que les chrétiens les ont appelés déicides. Le juif est l'ennemi du genre humain. Il faut renvoyer cette race en Asie ou l'exterminer. Par le fer ou par le feu ou par l'expulsion, il faut que le juif disparaisse. Tolérer les vieillards qui n'engendrent plus, travaillent à faire. Ce que les peuples du Moyen-Âge haïssaient d'instinct, je le hais avec réflexion et irrévocablement. La haine du juif, comme de l'anglais, doit être notre premier article de foi politique. On est en 1847.
Oui.
Oui, c'est quand même solide. Hein,
c'est étonnant. C'est quelque chose qui n'a pas été publié, mais qu'on a trouvé après coup. C'est révoltant, mais ça montre bien toute l'ambiguïté dans laquelle on était. Et plus tardivement, quand les anarchistes juifs vont voir quelqu'un comme Reclus et qu'ils lui posent la question de savoir est-ce qu'on peut aller là-bas, Reclus a une drôle de réponse. Il dit « Les juifs ne pourraient y vivre qu'en faisant du commerce et en exploitant la population locale. » Alors on se dit tiens, il a compris quelque chose. Et en même temps, il n'a pas compris que les Juifs qui partiraient en Palestine, à ce moment-là, créer des kibbutz, iraient cultiver la terre. C'est quelque chose qui lui a échappé. Et plus tard, donc, il déconseille ça. Et plus tard, il dira, dans l'Homme et la Terre, « Quant aux Juifs, ne sont-ils pas chez eux sur le sol que Jéhovah lui-même a donné à leurs ancêtres ?» Là, il y a un moment de silence.
De la part de Reclus.
Voilà. Il justifie le retour.
Reclus est athée. Donc il se réfère aux Écritures.
Oui.
Aux Écritures.
Si on connaît Reclus, on comprend ce à quoi il fait référence, c'est-à-dire à une culture religieuse, protestante, fondamentaliste qu'il avait quand elle était môme. Cela dit, nonobstant, ça pose un problème. Et là sont posées toute l'ambiguïté de la relation entre les anarchistes et ce qui va devenir Israël, c'est-à-dire considérer le kibbutz
comme
une préfiguration d'une société libérée.
D'accord, du socialisme.
Ou du socialisme, oui, si
d'accord.
On veut.
Mais d'où vient, par exemple, le texte d'un Émile Pouget ou le texte d'un Proudhon, dans l'inconscient collectif, on peut appeler ça comme ça, d'où ça vient?
L'inconscient collectif qui continue à durer. J'avais écrit, il y a une dizaine d'années, un article dans Le Monde Libertaire sur la question des quartiers, où revenait régulièrement l'idée, à ce moment-là, dans la presse comme ça, que les garçons dans les quartiers étaient antisémites, dans les quartiers populaires, ils étaient antisémites. Et je défendais une autre thèse, qui était celle que ces garçons étaient complètement intégrés dans la société française, et qu'ils avaient fait leur l'anti-judaïsme, qui est commun.
Donc ils reproduisaient la morale.
Ils continuaient.
D'accord.
Je veux dire, Je suis un ouvrier et j'ai toujours été sur tous les chantiers où j'ai été. À un moment donné ou à un autre, fais pas comme un juif, t'es pas un juif comme les autres, et ainsi de suite. Je veux dire, c'est cet anti-judaïsme de base qu'on retrouve particulièrement en Alsace où je vis. Il y a des rues des juifs partout. Il y a des restes de synagogues. Il y a, j'ai un vieil ami dont la mère lui disait « Mais arrête de parler comme un juif !» Donc ça fait partie, c'est le socle sur lequel l'antisémitisme s'est construit.
Si on prend le texte d'Émile Pouget comme celui de Proudhon, le juif passerait pour un exploiteur. C'est-à-dire, puisque on a employé le mot socialiste, on place déjà le débat. Il y a un glissement entre, j'ai envie de dire, alors là, il faut bien faire attention, hein, lutte de race et lutte de classe.
Selon ces gens-là, oui.
Voilà,
mais nous, on sait que ce n'est pas ça.
Bien, ce n'est pas ça. Mais dans l'inconscient collectif bien français, bien bourgeois, c'est ça.
Oui, tout en marquant que l'anti-judaïsme a toujours été, au fond, l'outil pour les puissants de régler les problèmes sociaux. Il était quand même plus facile de brûler les juifs ou de les sortir de la ville que de s'occuper des problèmes urbains, des problèmes de santé, des choses comme ça. Hein. Et la première croisade qui a eu lieu, les gens sont partis sans être payés, mais ils avaient le droit de liquider des juifs en passant pour avoir leur solde, n'est-ce pas ? Ce qui évitait, évidemment. Donc, sans arrêt, on est devant cette situation-là, et au fond, la question qu'on doit se poser, c'est à qui profite l'antijudaïsme ?
On va écouter, avant d'écouter un toute petit peu de musique, ça corrobore ce que je te dis, ça corrobore notre conversation, le rouleau. Il y a six lignes qui résument, je crois, bien la situation quand il dit, comme on le voit, le projet des sionistes socialistes est intéressant. Il n'est pas surprenant qu'il compte dès maintenant des adhérents zélés et nombreux, malgré l'opposition des bourgeois juifs de Londres. On est dans la lutte de classe, là. Et il ajoute, les sionistes pensent que la réussite de leur tentative serait intéressante au point de vue général. Ce serait un enseignement donné aux ouvriers et aux révolutionnaires internationaux. C'est-à-dire qu'on sépare le monde juif déjà en deux parties, les bourgeois et les ouvriers. Non ?
Absolument, tout à fait. Mais en même temps, on se trouve là devant la contradiction qui fait qu'aujourd'hui, les anarchistes ne peuvent plus soutenir que les kibbutz étaient une préfiguration, parce que les kibbutz, après la guerre de 66, sont passés complètement dans la construction du capitalisme en Israël. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce qui se passe de l'autre côté, ça soit comme on voudrait. Donc, je crois que sur la question israélo-palestinienne, la plupart de la mouvance libertaire fait très souvent fausse route en ne considérant pas les choses comme conflictuelles.
Comme toute l'extrême gauche, et ça va donner des choses qui vont être aberrantes à un moment donné.
Mais tout à fait. Hein? Moi, je pense qu'aujourd'hui, Israël est un État stable, qui existe, qu'on ne peut plus nier. Les Palestiniens veulent, certains Palestiniens veulent un État aussi, comme ça. On n'a pas, en tant qu'anarchiste, on n'a pas à choisir entre deux États. Par contre, on a à soutenir les gens qui, de part et d'autre, luttent pour passer par-dessus les limites étatiques. Et il y en a très peu, mais il y en a qui sont, ils sont très minoritaires, et ils sont toujours contre les structures étatiques israéliennes ou proto-étatiques palestiniennes.
On va écouter un peu de musique, mais à deux reprises dans ton livre, tu dis que, je ne sais plus qui tu es, toi tu le connais ton livre mieux que moi, on s'aperçoit qu'il y a des Arabes en Palestine.
Oui, ça c'est gênant, ça.
Ça c'est gênant, je ne sais plus, c'est au départ, très oui. tôt, on dit, tiens, mais il y a des Arabes. C'est très bizarre.
Oui, c'est, en fait, le problème vient à partir du moment où les kibboutz s'installent, ils perdent complètement leur capacité internationaliste. Et au lieu d'essayer de se lier avec les Arabes qui sont là, les Palestiniens qui sont là, et les faire rentrer dans les kibboutz, il y a un mur qui se forme, mais de part et d'autre. Et c'est les propriétaires palestiniens n'avaient pas intérêt à ce genre de choses. Et en même temps, dans l'émigration juive en Palestine, il y a toute une tendance ultra-raciste autour de Jabotinsky, et qui, elle, va donner le là, et dont les disciples sont aujourd'hui au pouvoir.
On va y revenir, Pierre. Kurt Weill, ça t'inspire ?
Oui.
Hein ? On va écouter un petit morceau de Kurt Weill. Merci, Monique. Merci Monique au 01 43 71 89 40. Et bien toujours avec Pierre Sommermeyer, anarchiste et juif, c'est aux éditions Libertaire. Petite parenthèse, très rapidement, et après on va revenir sur le sujet. Là. Les gens qui vont arriver en Palestine, ils viennent d'Europe centrale.
Oui.
Je veux dire qu'ils sont déjà au contact du progrès.
Oui.
Ils vont tomber sur une population qui, elle, n'est pas au contact du progrès.
Oui.
Voilà, et ça, c'est un problème fondamental, non ?
Oui, c'est ça qui est intéressant. Ces gens qui arrivent, qui sont des intellectuels, pour la plupart, vont se retrouver dans une situation où il faut qu'ils produisent leurs propres besoins, leur propre nourriture. Donc, ils vont, ils vont revenir en arrière par rapport... Ils vont faire le travail... un type de travail qui leur était interdit jusqu'à présent en Europe. D'accord ? Et d'une certaine façon, ils vont se remettre à niveau avec les gens qui les ont... les Arabes qui sont là, quoi. Grosso modo. Donc, je ne sais pas si quelqu'un s'est posé cette question, il y a eu un livre qui est paru il y a très peu de temps sur les kibbutz et les anarchistes et les kibbutz de Horrocks, et lui, il évacue cette question-là. Hein. Donc, il y a ce côté, au fond, de gens qui, d'un côté, avec un bagage culturel, certes, hein, important, la culture des Lumières, se retrouvent obligés de cultiver leur terre, et ils ont à côté d'eux des gens qui cultivent aussi leur terre. Pas forcément de la même façon, mais... Et il n'y a pas de jonction qui est faite. Hein. Et en même temps, à ce moment-là, il y a plein de conflits dans les années entre les deux guerres mondiales. Il y a plein de conflits qui opposent les Arabes et les Juifs.
Oui. Alors, toi qui as travaillé sur les textes, je suppose que tu as travaillé sur les textes juifs et aussi sur les textes des libertaires. Où se situent les passerelles? Parce que c'est le gros problème. Quand on regarde la presse, on s'aperçoit que d'aucuns pensent que c'est vraiment un socialisme qui va s'implanter, et d'autres qui pensent qu'effectivement, non, ce ne sera pas ça. Où se situe la jonction entre les passerelles?
Mais elle se situe avec la transmission de textes d'un côté à l'autre. Des kibbutz vont publier... mais je pense pas qu'il l'ait fait en arabe, mais des textes de Bakounine, de Kropotkine.
Il l'aurait fait en quelle langue alors?
En allemand.
En allemand, d'accord.
Hein? Et quelqu'un comme Gustav Landauer, qui avait joué un rôle extrêmement important dans la mouvance libertaire germanique, qui avait élaboré toute une théorie sur les communes, sur les communautés, tout ça. Va influencer beaucoup les kibbutzniks allemands, mais c'est pas lui. Lui, il sera mort, il n'a jamais eu de position sioniste. C'est Buber qui va dire c'est la pensée de Landauer. Au fond, il y a eu, à un moment donné, une rencontre qui ne s'est pas faite sur place, entre les kibbutzniks socialistes, révolutionnaires, libertaires pour certains et d'autres moins, et la mouvance nationaliste arabe, palestinienne, qui commençait à naître. Il faut se rendre compte que c'est le moment où l'Empire ottoman s'est désagrégé et la petite bourgeoisie palestinienne peut commencer à avoir un avenir.
Et Pierre, avant le mouvement sioniste, le phénomène de partir pour composer une société agraire, le plus souvent agraire, ça appartient au XIXe siècle. Les Saint-Simoniens se sont retrouvés en Égypte ou en Amérique du Sud.
Tout à fait.
Hein?
Tout à fait.
Donc c'était encore une chose, j'ai envie de dire, entre guillemets, c'était une forme d'utopie à laquelle on pouvait encore croire.
Absolument, mais il y a eu dans le courant libertaire tous les milieux libres qui se sont créés de gens qui ont sont dit ça suffit comme ça, on se bat, on n'a jamais rien, on va créer tout de suite une communauté. Au fond, je dirais, le mythe communautaire est un mythe moteur qui traverse toute la société et surtout dans les milieux révolutionnaires.
Là, il y a un petit passage. Excuse-moi, je ne sais pas. C'est Lekash.
Oui.
Voilà, qui dit « Je suis anti-sioniste parce que le sionisme réduit le droit des Juifs à n'être libres que sur un point limité du globe, sans d'ailleurs y parvenir, et qu'il ne saurait résoudre la question de l'antisémitisme. » Ça, c'est une phrase qui m'a paru clé. Non, je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, mais ce qui est très intéressant, c'est que Lekash, à ce moment-là, il représente la Ligue des droits de l'homme.
Oui.
Dont les positions aujourd'hui sont beaucoup plus ambiguës par rapport à Israël et aux Palestiniens. Hein? Donc, c'est ça. Mais effectivement, il y a eu tout un débat sur la question avant la Deuxième Guerre mondiale, et ce débat, après la Deuxième Guerre mondiale, disparaît.
Les premières migrations apparaissent vers les années 20
1900.
1900, oui. Voilà. Et ça se continue vers 22. Ça se continue.
Oui.
Ça continue. Mm-hmm. Et est-ce que ces gens qui migrent, qui vont en Palestine, sentent que l'Europe est en train de mal virer, puisqu'on faut quand même rappeler que 1924, c'est la marche sur Rome, hein, et 33, c'est quand même...
Alors là, c'est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de chiffres pour ceux qui étaient des libertaires. Par contre, on a des chiffres pour ceux qui étaient communistes, qui ont préféré partir en Espagne, se battre, plutôt que rejoindre les luttes nationalistes, indépendantistes, palestiniennes. Ils se sont trouvés, au fond, partagés entre leur internationalisme et leur judaïsme. Et pour éviter ça, ils sont partis en Espagne. Hein? Bon, j'ai pas trouvé de chiffres pour les libertaires. Ça. Mais donc, pour eux, la question s'est posée. Donc je suppose que la question s'est posée aussi pour les autres.
Puisque tu parles de l'Espagne et ce que ça a donné comme catastrophe aussi par rapport au mouvement anarchiste. Hein. Voilà, il y a un livre que je conseille, c'est très très drôle parce que les gens ne le connaissent pas, c'est un livre de Michel Sahuc, Un regard noir, la mouvance anarchiste française au seuil de la Seconde Guerre mondiale et sous l'occupation nazie de 36 à 45, et c'est aux éditions du Monde Libertaire, c'est en 2008. Publié là, et c'est fondamental pour savoir qu'est-ce qui est resté du mouvement anarchiste après la guerre. Voilà, je sais pas si voilà, très peu de gens l'ont lu. Tu veux dire, tu veux intervenir? Oui, excuse-moi.
Mais je voudrais juste, à propos de la guerre d'Espagne, revenir à un point que j'ai trouvé ça très intéressant. Comment l'antijudaïsme perdure
à travers... Tu dis pas antisémitisme?
Non, l'antisémitisme, voilà. C'est l'attitude qui consiste à dire on liquide tous les juifs et le monde est libre. D'accord ? L'antijudaïsme, c'est quelque chose qui traîne depuis 2000 ans, où on est obligé de gérer ça. Et au moment de la guerre d'Espagne, il y a un camarade, un compagnon juif marocain qui écrit à la CDT. Et qui dit, ce serait bien que vous abolissiez le décret d'expulsion des Juifs datant de 1492. On se dit, qu'est-ce que ça coûtait? Au fond, ça considérait personne. Un trait de papier, c'était terminé. Et la réponse du compagnon à qui il s'adressait, il convient néanmoins de préciser que nous ne pouvons pas battre le fer contre le vieil édit sur l'expulsion des Juifs d'Espagne, car ce serait ouvrir la porte au judaïsme international. Mmh. On se dit, c'est quand même très curieux. Alors qu'en même temps, au même moment, il y avait des Juifs palestiniens qui venaient se battre. Mais on voit à quel point c'est quelque chose... L'antijudaïsme, c'est quelque chose qui a profondément marqué les gens, qu'ils soient de quelque mouvance que ce soit. Après, il y a cette guerre qui arrive.
Ça, on va y revenir. Ça. Mais, on va même sauter, et puis on y reviendra, on va même sauter. 45, c'est la création de l'État d'Israël.
Non.
Non, combien? 48.
48.
48, pardon. 48, c'est la création. Dans la presse libertaire, on note la chose ou pas?
Ah oui, on note la chose.
Et on note la chose comment? Comme si c'était un État qu'on condamne?
On ne sait pas très bien sur quel pied danser. Hein. Et en même temps, il y a des compagnons qui partent, qui ne supportent plus leur situation en France, et qui partent et qui rejoignent les kibbutz. Donc, c'est un État qui se naît, mais il y a des cellules révolutionnaires en zone.
Toujours en croyant, parce que moi j'ai rencontré des gens qui sont partis, hein, toujours en croyant au socialisme.
Oui, bien sûr.
Voilà. Au départ, l'État d'Israël serait un État socialiste.
Ah, complètement.
D'accord.
C'est un État socialiste, c'est un État athée.
C'est un État athée.
Pour eux, la justification religieuse n'existe pas. Donc, les juifs religieux sont présents. Mais dans l'organisation politique, l'organisation sociale, constitue, il n'y a pas ça. Et à aucun moment, Israël n'est considéré comme un État juif. C'est maintenant.
D'accord, c'est le lien plus tard. C'est et bien. Qu'est-ce qu'ils font des Arabes lorsqu'ils arrivent en 48?
Ah, ils partent. Il y a un conflit là.
C'est immédiat.
C'est d'un côté et de l'autre, on se rentre dedans et les plus faibles sont obligés de partir. Et les plus faibles, en l'occurrence, ce sont les Arabes.
Donc, il va y avoir cette guerre. Bah, qui dit la guerre, qui dit le monde juif, dit la déportation. Ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que par rapport à cette déportation, il va y avoir un grand silence qui va se faire au retour, qui va appartenir quasiment à toute la culture française, mais aussi en particulier au monde anarchiste. C'est-à-dire que, tu dis toi-même dans ton livre, dans les journaux, là, il y a très très peu de compte-rendu de ce que ça a été. Soit il y a rien, on veut pas le savoir, soit, je vais te lire un tout petit passage que tu as écrit toi, c'est tellement dérisoire qu'on a l'impression que rien s'est passé.
Oui, c'est préoccupant, je dirais. J'ai connu beaucoup de gens qui avaient échappé à la Shoah, qui avaient survécu à ce passage de la guerre, qui avaient été des juifs, qui auraient... Bon, moi-même, j'ai été sauvé par des Français, donc où c'était des Français non violents au Chambon-sur-Lignon. C'était quelque chose de très, très curieux de voir tous ces gens qui étaient tout à fait conscients, que ce soit dans les milieux anarchistes, autant que dans les milieux marxistes libertaires, marxiens ou communistes de conseil, toute cette question n'a jamais été abordée. Et personne n'est en mesure de me dire pourquoi.
Tu sais qu'après après Hiroshima, on a noté aux États-Unis, on n'avait jamais vu autant de cas d'amnésie. Les gens ont été brusquement frappés d'amnésie, mais au niveau médical. Hein. Voilà.
Oui, alors après, dire la question, enfin, moi les gens dont je parle, c'était tous plus ou moins des théoriciens, c'était des grosses têtes dans les mouvements... qui n'était pas tenu par le Parti communiste, hein, le stalinisme. Nonobstant, voilà. C'est quand j'ai demandé à droite, à gauche, pourquoi, on ne sait pas.
Tu as écrit « La Shoah y est totalement absente. Si l'on fait exception de cette ligne que lui consacre Rudolf de Longue dans sa contribution, cette ligne pour évoquer un événement considérable, une extrême abomination ayant conduit plus de 6 millions de personnes vers l'horreur. Cette ligne, quand le sujet a suscité des myriades de livres. Cette ligne, c'est décidément court pour traiter de la Shoah, quand son existence même remise en cause et pour l'humanité entière auquel elle s'accorde le projet libertaire, la possibilité de vivre debout. Je pense aujourd'hui que l'on peut chercher dans la répétition de cette apparente indifférence les racines du négationnisme que certains petits groupes pratiquèrent dans les années qui suivirent mai 68. » Je crois que c'est une phrase importante de ton livre, ça.
Oui. Il y a plusieurs choses là-dedans. Il est clair que si cette question avait été abordée, étudiée, réfléchie, discutée, la question de la Shoah, la question de la disparition de juifs qui étaient des juifs, mais de beaucoup de camarades juifs.
Tu dis judéocide, toi, tu dis pas
oui,
génocide.
Bon, c'est un problème de vocabulaire, de répétition, okay. De choses comme ça. Si ces questions avaient été abordées, les positions négationnistes affichées par des petits groupes après 68 n'auraient pu avoir lieu, parce qu'il y avait déjà un corpus de faits. Ce corpus n'ayant pas été fait, eux ont pu rentrer là-dedans. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est le texte que tu as écrit sur cette ligne. Ça fait référence à un livre qui est paru avec presque le même titre que le mien, qui s'appelait « Anarchistes et juifs, histoire d'une rencontre », qui est le fruit d'un colloque tenu à Venise en 2000 par, comment dire, des grands noms de l'anarchisme.
D'accord.
C'est C'est pas des petits militants qui se réunissent, c'est des gros noms de l'anarchisme qui se réunissent, qui ont une importance auquel on fait référence. Et cette question-là, elle est évacuée. Et quand j'en ai parlé, personne ne m'a répondu là-dessus.
On va creuser le sujet, on va écouter un petit peu de Kurt Weill, reprendre notre respiration et puis boire un verre, et on creuse le sujet avec cet infâme Paul Razigny, qui est quand même une des bases.
Der Zeitung steht, ist anders und im Ultimo. Und um sich schießen sich allerhand Leute tot. Da wird sie viel Geld. Das macht einen Namen und hilft einem Menschen fest. Wenn sie da nicht und nur ist, sonst macht man sich nicht mehr aus ihr. Das macht man bald einen großen Morgen am See.
Merci Serge d'avoir fait silence. Merci Monique, Kurt Weill, voilà. Donc, on est l'après-guerre, là, il y a ce grand silence, on ne dit pas grand-chose, mais il y en a certains qui vont prendre la parole, sur deux sujets. Un, c'est le procès Céline, en 49, et combien on trouve, alors je le disais, de gens se réclamant de l'anarchie, en même temps trouvant des circonstances atténuantes à Céline, alors qu'il a écrit quand même trois pamphlets de 39 à 41, je crois, mais complètement antisémites et d'une violence folle. De surcroît, il a fini à Simmeringen. De surcroît, il a réclamé aux autorités allemandes du papier pour qu'on republie ses pamphlets. De surcroît, je ne sais pas si tu le sais, mais il a demandé, alors que les lois juives viennent de tomber, qu'on publie le portrait de Robert Desnos. Alors tout le monde sait que Robert Desnos a le nez légèrement crochu, ce qui est quand même pas d'une élégance folle. Et il se trouve que lors de ce procès qui a lieu en 49, il y a un chroniqueur au Libertaire, qui s'appelle Maurice Lemaître, qui était un poète lettriste, qui va ouvertement prendre position pour Céline, faut avouer. Comment tu peux expliquer ça? On ira bien Racinier.
Difficilement, je comprends pas très bien. J'ai repris pas mal de citations et j'ai trouvé très peu de gens qui ont dit ça suffit. Bon, il y a eu des militants qui ont dit ça suffit, qu'on s'occupe de ce mec, mais il y a eu des gens comme Camus qui, eux, d'emblée. On dit Céline, il faut le laisser là où il est. Et Camus a eu des mots très forts là-dessus. C'est une certaine indifférence, c'est une société qui sort d'un trauma profond. Au fond, quand est-ce qu'elle va, cette société va se remettre de ça, moi je ne sais pas. Comment ça s'est passé.
Mais comme tu me disais tout à l'heure, là, c'est pas des gens qui ne pensent pas, ce sont des gens qui sont des intellectuels qui réagissent comme ça. Maurice Lemaître, c'est un intellectuel.
Oui, et la plupart des gens qui viennent avec lui là-dedans sont effectivement des intellectuels très, très curieux. Jean-Paul Han, Louis Powels, Albert Béguin, Charles Plinier, et prennent position pour une espèce de tolérance, au fond. Était-ce la place de demander à la justice de s'occuper de Céline? À mon avis, pas. Dire, y avait pas à, il y avait à être indifférent par rapport à Céline. C'était pas aux anarchistes de décider s'il était bon.
Tu sais qu'après la, guerre, Jean-Paul Han, qui était directeur de la NRF, va trouver une expression là. Pour sauver les collaborateurs, il va employer le terme de qu'on crée un droit à l'aberration. Tu vois? Je ne sais pas si tu vois à quel niveau. Et André Gide dira, par rapport aux trois pamphlets de Céline sur les beaux draps, j'ai oublié les deux autres, l'école des cadavres, il dira, c'est de l'humour.
Pour Benjamin Perret, quand il écrit à ce propos dans Le Monde libertaire, il dit, toute son œuvre, l'œuvre de Céline donc, toute son œuvre constitue une véritable provocation à la délation et de ce fait devient indéfendable. À quelques points de vue que l'on se passe. Et Camus, lui, ajoute « Mais vous ne m'en voudrez pas d'ajouter que l'antisémitisme, et particulièrement l'antisémitisme des années 40, me répugne. C'est pour ça que je suis d'avis, lorsque Céline aura obtenu ce qu'il veut, qu'on nous laisse tranquille avec son cas. »
Mais Perret, André Breton, Benjamin Perret, Albert Camus sont très clairs depuis le départ.
Mais pourquoi pas les autres?
Ils sont minoritaires. Voilà. Ils sont minoritaires. Mais quand tu lis Maurice Lemaître, il argue que c'est une justice bourgeoise. Tu vois, voilà. Et tu sais ce que ça me fait penser, ça j'ai découvert dans ton livre, dans ton livre là, lorsqu'il y a le procès de Nuremberg, certains dans la presse libertaire ne comprennent pas qu'on puisse juger les gens à Nuremberg. Ils disent cette chose terrible, ils disent si on avait piqué comme Mussolini pour lui régler son compte, ok, c'était très bien, mais il y avait, en fin de compte, il n'y avait pas de procès à faire à Nuremberg. Mm-hmm. Non, c'est ça à peu près ou pas?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais il faut dire aussi que Nuremberg est très. Comment dirais-je? Nuremberg ne se pose pas la question des Juifs. Il y a pas, la question de la Shoah n'est pas abordée à Nuremberg. Nuremberg va choisir non pas le crime contre l'humanité, mais le crime de guerre.
Et c'est pourtant couvert par Hannah Arendt.
Alors, Hannah Arendt va couvrir le procès d'Eichmann.
Eichmann, pardon, excuse-moi.
C'est bien longtemps après, et c'est une situation tout à fait différente. Mais aussi sur le procès d'Eichmann, qui ouvre la voie à un tas de réflexions, et entre autres aux idées d'Hannah Arendt et la question de la banalité du mal, la presse libertaire, donc à ce moment-là, le monde libertaire, ne dira rien.
Ne dira rien.
Ils passeront à côté.
Et tu as une explication quant à ça? Parce que moi, c'est un de mes grands questionnements. Tu as une explication ou pas?
Mais je dirais, encore aujourd'hui, la question juive emmerde tout le monde.
D'accord.
C'est brutal un peu. Mmh. Ça. Parce que au fond, on ne peut pas la résoudre. On ne peut pas dire, suffit de faire ci, il suffit de faire ça. On se trouve avec quelque chose qui existe, qui est sur notre chemin, de façon perpétuelle, qui ressort régulièrement. Et on voit ça avec les manifs contre les vaccins. Tout ça. Et effectivement, on peut se poser la question, pourquoi au moment quand Racigné publie son livre, pourquoi dans la mouvance libertaire, on accepte son livre? Il faut dire que à cette époque-là, au moment où il publie son livre, la pression stalinienne sur tout ce qui est culture est colossale. Et le côté anticommuniste de Racigné est soutenu. Mais Racigné ne dit pas seulement ça, il ne dit pas seulement que c'était les les prisonniers communistes qui dirigeaient les camps. Oui. Au profit des SS.
Alors, on va quand même présenter Racigné, parce qu'il oui, faut, on est sur Radio Libertaire, il vient quand même du mouvement libertaire au départ.
Absolument.
Ce drôle de coco. On se fait 3-4 notes de musique, Monif, et on a un drôle de problème. On va traiter de Racigné. Et tu sais pourquoi aussi, tout à l'heure je parlais de l'oubli par rapport à l'histoire, plus personne ne sait qui est Racigné. D'accord ? Ok. Merci, Monique. Comme on a des choses à se dire encore, on repassera à la musique. En Kurt Weill, c'est magnifique. On est au 01 43 71 89 40 avec Pierre Sommermeyer, anarchiste et juif, anarchiste, antisémitiste, antisioniste, les éditions libertaires, pardon. On a plein de choses à se dire. Et en particulier sur un aide qui s'appelle Paul Racigné, qui vient, malheureusement, on ne peut pas le nier, du mouvement anarchiste, puisqu'il était à la FA, Pierre. On est en 50, on est en 50 environ ? Années 50, 51,
oui, c'est ça. 51, 52.
Voilà.
Et il est donc, la FA n'existe pas à ce moment-là en tant que telle, mais bon, il est dans les groupes. C'est l'Union anarchiste. Je ne me rappelle plus exactement quel est l'intitulé, mais en tous les cas, il est là et il a été présent avant la guerre. Pendant la guerre, il a été en camp de concentration. À son retour de guerre, il écrit un livre qui s'appelle et qu'on peut trouver en ligne, Le Retour d'Ulysse.
Le mensonge d'Ulysse.
Où toute une partie de son livre consiste à raconter comment ça se passait de son point de vue dans les camps de reconcentration, donc pas dans les camps d'extermination, hein, dans les camps de concentration. Et comment les communistes qui avaient été incarcérés s'étaient organisés et géraient les camps, évidemment à leur profit, et pour le reste de la population. Et qu'au fond, c'était des groupes qui faisaient plus ou moins l'interface entre l'administration SS du camp et les prisonniers. Et la position de Racigné, c'était de dire ces gens-là servaient la soupe aux SS, ils étaient cul et chemise avec les SS, et que si les SS avaient, eux, géré directement les camps, ça aurait été plus agréable. Ce qui est assez curieux. Il faut juste se remettre ça dans la situation de cette époque-là, où le Parti communiste français et le Parti des fusillés, où lui a la vérité, il est en plein stalinisme, donc il va y avoir des tas de procès à ce moment-là, de gens qui critiquent les goulags communistes. Racigné se serait borné à raconter cette histoire et qui a donné lieu à des débats très forts dans la presse, dans le libertaire de l'époque, sur la question de l'importance d'une organisation parallèle dans les camps de concentration. La chose se serait arrêtée là. mais il rajoute une partie sur la question des chambres à gaz.
Alors, Racigny appuiera par la suite sa position, affirmant à propos des chambres à gaz. Il est encore trop tôt pour prononcer un jugement définitif sur les chambres à gaz. Les documents sont rares et ceux qui existent, imprécis, incomplets ou tronqués, ne sont pas exempts de suspicion. Il revient plus loin sur cette question. Mon opinion sur les chambres à gaz, il y en a eu, pas tant qu'on le croit, des exterminations par ce moyen, il y en a eu, pas tant qu'on l'a dit. C'est quand même...
Alors, c'est au fond, c'est assez intéressant et c'est difficile de pas faire des heures de temporalité. Effectivement, il n'y a pas eu autant de morts en chambre à gaz que ce qui a été dit. Parce que il y a eu le nombre total de morts n'est pas sujet à caution. Parce qu'il y a eu ce qu'on a appelé plus tard la Shoah par balle, qui n'était pas une Shoah par gaz ou par moyen d'extermination au camp, mais une Shoah systématique les soldats allemands pratiquaient. Et qui est... Après, c'est très difficile de faire des comptabilités, mais qui porte pour beaucoup une partie de la liquidation des Juifs. Hein. Donc, on pourrait se limiter à ça. Si ce n'est que dans les années 68, 69, il y a des gens qui commencent à faire des calculs horribles. S'il y avait eu tant de chambres à gaz avec tant de surface, ce n'était pas possible de tuer autant de gens, ne prenons pas en compte. Mais la question c'est que dans les débats qui ont lieu dans le libertaire de l'époque sur Racigny, la question juive n'est jamais abordée.
Jamais abordée. Et petite parenthèse, même quelqu'un comme Maurice Joyeux, qui est contemporain, ne va pas totalement désavouer Racigny.
Non, il considérera à la fin de sa vie que Racigny a écrit un très bon livre et que c'est que le mensonge d'Ulysse est certainement un des meilleurs livres sur la question. C'est assez étonnant quand on sait la culture de Maurice Joyeux et le nombre de livres qui ont paru à ce moment-là, au moment où il s'exprime là-dessus.
Racigny, c'est la porte ouverte au négationnisme.
Absolument, totalement.
Hein, alors, petite parenthèse aussi, Forisson, qui va être, je veux dire, le pilier du négationnisme, n'est pas un imbécile non plus. Hein. Il a travaillé sur Lautréamont, il a travaillé sur Rimbaud. C'est quelqu'un qui, intellectuellement, devrait avoir des bases solides. Hein.
Oui, alors ça, c'est... Et pourquoi les petits groupes radicaux de ce moment-là...
On va finir là-dessus, Pierre. C'est ce qui était autour du revirement de la vieille taupe.
Oui.
C'est ce que tu veux dire, non ?
Oui.
Alors,
tout
à fait. Tu peux y aller là, parce que là, ça a disparu dans l'histoire. Essaye un petit peu là.
La vieille taupe a deux périodes. La vieille taupe était l'endroit où moi, j'allais souvent, quand j'étais jeune ouvrier à Paris, chercher des textes qui venaient, qu'on ne trouvait pas ailleurs. Des textes des conseillistes.
C'était quelle rue ? Tu te souviens ou pas ? Parce que moi, j'ai recherché la rue, je n'ai pas trouvé.
Je crois que c'était rue Saint-Jacques.
Rue Saint-Jacques, c'est ça. Oui, alors...
Et donc, c'était, grosso modo, on peut dire, l'endroit où on trouvait tous les textes marxiens disponibles. Et puis, il y a 68 qui arrive, hein, et au fond, 68 a ouvert le champ du possible. Et... Le champ des possibles s'est refermé et ça a été très difficile pour des tas de gens de vivre ce refermement. Il y a eu nombre de petits groupes qui avaient éclos au moment de 68 qui sont morts après coup. Et parmi ces groupes, il y avait donc des groupes qui étaient proches de Guillaume, qui était de la vieille taupe, qui ont comme des gens de la banquise, par exemple, qui ont trouvé là l'occasion d'exprimer leur radicalisme. Et ça coïncidait aussi avec le moment où des luttes en Palestine, entre Palestiniens et Israéliens, devenait très fort. Et quel meilleur moyen d'être plus radicaux que les autres que de contester la Shoah ?
C'était aussi sous couvert d'anticommunisme ?
Absolument.
Sous couvert de société bourgeoise aussi ?
Complètement.
Bien sûr.
La société française, mais comme toutes les sociétés, ne s'est pas relevée de cette histoire de la Shoah. Bascule à ce moment-là dans une espèce de culte d'Auschwitz et de compagnie. C'est à partir de ces moments-là où on commence à organiser des espèces de pèlerinages et tout ça. Donc, il y a tous les ingrédients qu'il faut pour une réaction simpliste. Et c'est ça qu'ils vont avoir. Donc, ils vont chercher le moment, la chose où on peut commencer à, comment ça s'appelle, à titiller ça, et ils vont trouver en Forisson quelqu'un qui leur offre la possibilité de développer ces idées profondément réactionnaires, mais disruptives, incendiaires. Ne pouvons pas laisser les gens insensibles à ce qui se passe. Et c'est au fond, c'est très curieux, puisque sous le prétexte de liberté d'éducation, d'information, ils vont même enrégimenter quelqu'un comme Chomsky, qui est le juif américain, intellectuel important, qui ne sait pas où il met les pieds, dans quelle chose il met les pieds, qui n'est pas très au clair de ce qui se passe et comment ça se passe, et des débats. Et ça va, au fond, créer quelque chose qui n'est pas refermé aujourd'hui. Il semblerait bien que certaines personnes, des groupes plus ou moins proches de la mouvance libertaire au sens large du terme, continuent à chercher par quels moyens on peut faire quelque chose de révolutionnaire avec l'antisémitisme.
C'est l'histoire de mon fameux tract qu'on m'a remis à Nuit Debout, là, qui commençait par des lignes absolument admissibles, qui passait par l'antisionisme, qui arrivait à l'antisémitisme et qui finissait par l'instaural. C'est-à-dire, c'est, oui, c'est, voilà.
Et là, on sert la soupe au courant réactionnaire conservateur israélien, qui considère que toute attaque contre l'État israélien est une attaque antisémite. Mmh. Et à ce moment-là, il est difficile de frayer un chemin entre les gens qui pensent que, enfin, que moi personnellement, je suis anti-palestinien, donc je suis pro-israélien, et les autres qui pensent que, comme je suis contre l'État d'Israël et je défends les gens qui, à l'intérieur de l'État d'Israël, se révoltent et refusent, je suis pro-palestinien. Et cette ligne de crête est extrêmement difficile à tenir, mais il y a aujourd'hui en Israël plein de jeunes qui refusent de servir dans l'armée, qui sont des objecteurs de conscience. Il y a eu toute une tendance d'anarchistes contre le mur, qui n'étaient pas anarchistes, mais qui ont été considérés par les pouvoirs israéliens comme des anarchistes. De l'autre côté, palestinien, il y a plein de gens qui luttent contre le pouvoir palestinien ou le pouvoir gazaoui. Je veux dire, il y a de chaque côté des gens qui sont en lutte pour construire un État de plus en plus fort et dans lequel eux sont les patrons. Et de chaque côté, il y a des gens qui refusent de marcher dans la combine.
Et cette histoire dure depuis plus d'un siècle.
Oui, absolument.
Mais c'est ça, parce que quand tu dis qu'on commence ton livre, on s'aperçoit que le problème est déjà là. Hein.
Mais complètement.
Alors ce livre, c'était un plaisir, Pierre. Hein. Pierre Sommermeyer, anarchiste et juif, anarchiste, antisémitisme, antisioniste, les éditions libertaires. On va s'arrêter là, tout simplement, sinon on bâclerait, et c'est ça que, ce que je t'ai dit, il faudrait 300 pages et il faudrait 2 heures d'antenne. On va remercier Monique, on va donner rendez-vous lundi prochain, Monique, avec Marianne Majidi, bye bye, à bientôt sur Ondes de Choc au 01 43 71 89 40. Et puis ne loupez pas l'émission qui vient, C'est Trou Noir, ça va être très intéressant.
Tu vois,
Meine Herren, mit 17 Jahren kam ich auf den Liebesmarkt und ich habe viel. Das war das Spiel, aber manches hab ich doch verargt. Schließlich bin ich ja auch ein Mensch. Gott sei Dank geht alles schnell vorüber, auch die Liebe und der Kummer sogar. Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee?
Thank you. suprême, crachant mes adieux à Paris. Et me voici, ma bonne femme. Oui, foutu comme 4 sous, mon linge est sale aussi, mon âme. Et me voilà chez nous. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive. Si ce linge goûte à mainte et maintes fois un vin amer, où des garces aux lèvres peintes ont torché leur bouche d'enfer. Et voici mon âme plus grise, les mêmes souillures, hélas, que le plastron de ma chemise gris, rose et lilas. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment. Au fond du cuvier où l'on sème, parmi l'eau, la cendre du four, et tout mon linge de bohème repose durant tout un jour. Et qu'enfin mon âme pareille à ce déballage attristant, parmi ton âme, ô bonne vieille, repose un instant. Thank you. Maman, maman, ton mauvais gars arrive. Au bon moment. Tout comme le linge confie sa honte à la douceur de l'eau. Quand je t'aurai compté ma vie malheureuse d'affreux salaud. Ainsi qu'on rince à la fontaine, le linge au sortir du cuvier, mère, arrose mon âme en peine d'un peu de pitié. Et lorsque tu viendras étendre le linge d'iris parfumé tout blanc parmi la blancheur tendre de la haie où fleurit le mai, je veux voir mon âme encore pure en dépit de son long sommeil. Dans la douleur et dans l'ordure, revivre au soleil. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, ton mauvais gars arrive. Au bon moment.
De sa beauté qu'il est divin et mieux mon bonheur a bousculé le linge et l'honneur. Vêtement suprême de mode toujours, c'est toi seul que j'aime de tous ses atours. Vêtement suprême de toujours, c'est toi seul que j'aime de tous ces atours. Vêtement suprême de mode toujours, c'est toi seul que j'aime de tous ces atours. Vêtement suprême de mode toujours, c'est toi seul que j'aime de tous ces atours. Vêtement suprême de mode toujours, c'est toi seul que j'aime.
suis plus de ces esprits philosophiques. Et ce n'est pas de morale que tu te piques. Deux admirables conditions pour l'amour, telles que nous l'entendons, c'est-à-dire sans tour. Aucun de bête, convenance ou de limite. Méchaud, rieur, et zut à tous et hypocrite. Aimons gaiement et franchement. Aimons bien fort jusqu'à la mort. J'ai reconnu que la vertu quand s'agit d'elle est du péril. Et que la plupart d'elles ont raison de s'en passer, nous prenant pour modèle. Si bien qu'il est très bien de faire comme font les bonnes bêtes de la terre et les célestes. N'est-ce pas, prompte-moi, non, n'est-ce pas, les sœurs prestes. Aimons bien fort jusqu'à la mort. Aimons drûment et verdement. Pratique mon bon conseil et reste amusante, s'il se peut, sois le plus encore. Et représente-toi bien que c'est la loi d'être pour nous charmer. Et la fleur n'est pas plus faite pour se fermer. Que vos cœurs et vos sens, ô nos belles amies, tête en l'air, sens au clair, vos pudeurs endormies. Aimons drûment. Aimons gaiement et franchement. Aimons bien fort jusqu'à mort.
Pas besoin d'être devin, ni de tirer les tarots, pour deviner d'où je viens. Nougaro, et si je compte mes pieds, si je joue les Figaro, c'est pour suivre tes voiliers. Nougaro, quand la pluie fait des claquettes et qu'elle frappe au carreau, j'ai tes chansons dans la tête. Nougaro, Claude et Claude qui se promène en ma chanson Livaro. Un soir au bord de la Seine, c'est Nougaro. Pour apaiser mes fringales dans une oreille Aljaro, et dans l'autre tes cigales. Nougaro, mais tu sais c'est pas facile, au cou j'ai comme un garrot, quand je veux chanter Cécile. Nougaro, et le soir si je m'obstine à me mettre un peu noiro, c'est pas pour Marie-Christine. Nougaro, c'est pour avoir les atomes bien inspirés et voir haut. Fond de mon verre ton fantôme, Nougaro. Besoin d'être devin. tirer les tarots pour deviner d'où je viens. Nougaro, et si jamais je termine ma vie derrière les barreaux, ce sera en chantant Sing Sing Nougaro. Ce sera en chantant Sing Sing Nougaro. Nougaro. Il serait temps que l'homme s'aime, depuis qu'il sème son malheur. Il serait temps que l'homme s'aime, il serait temps, il serait l'heure. Il serait temps que l'homme meure, avec un matin dans le cœur. Il serait temps que l'homme pleure, le diamant des jours meilleurs. Assez, assez, crient les gorilles, et c'est assez. Arrêtez votre humanerie. Assez, assez, crient les déserts et les glaciers, crient les épineux hérissées. Déclouez votre Jésus-Christ. Assez. Il serait temps que l'homme règne sur le grand vitrail de son front. Depuis les siècles noirs qu'il saigne sur les barbelés de ses fronts. Il serait temps que l'homme arrive sans l'ombre avec lui de la peur, et dans sa bouche la salive de son appétit de terreur. Assez, assez, dans la prairie, crie le granit, crie le cabri. Assez, assez, crie la petite fille en flamme dans son dimanche de la palme. Éteignez-moi, je vous en prie. Assez suffit. Que l'homme s'aime, c'est peu dire. C'est là mon pauvre labeur, je le dis à vos poils à frire, moi le petit soldat de beurre. Que l'homme s'aime, c'est ne dire qu'une parole rebattue, et sur ma dérisoire lyre, voyez déjà elle sait tout. Mais voici que dans le silence s'élève encore l'immense cri. Délivrez-nous de vos démences, crie l'éléphant, crie le cri-cri. Crie le sel, le cristal, le riz, crie les forêts, le colibri. Les clématites et les pensées, le chien jeté dans le fossé, la colombe cadenassée. Cette transe, expatriez votre souffrance, crie les sépulcres et les nids. Assez, assez, fini.
Tu revenais, Cassandre, arrivé aujourd'hui en France, annoncé les catastrophe, les maux de la vie. Tu ferais un malheur. Tu ferais un malheur. Tu ferais un malheur. Tu ferais un malheur. Partout, t'aurais un succès fou. Tu serais la coqueluche des branches et de la terre. Aujourd'hui on chérit ceux qui annoncent l'horreur. Près de toi Zemmour et Finky seraient des amateurs. Tu installerais la paix. Si tu revenais, Cassandre, arrivé aujourd'hui en France, annoncer les catastrophes, les maux de la vie. Oh, tu ferais un malheur. Tu ferais un malheur. Tu ferais un malheur. Tu ferais un malheur. Et quand ils se disent, les urbains les t'en disent, toi aussi tu détestes la vie. Ils font l'autodafé de nous, nous sommes tant aimés. Nous voulions changer le monde. C'est le monde qui nous a changé. Jamais on changera le monde. Si tu revenais, Cassandre, arrivé aujourd'hui en France,